Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons. Vous n'arrivez pas à dormir? Aïe! Même si vous avez bien en tête l'image des moutons sautant par-dessus une haie, c'est bien de la haie dont on va parler aujourd'hui. Alors, on reste éveillé, parce qu'elle a longtemps déchanté la haie, pas comme Jean-Luc ou Brigitte. Allez, un peu de sérieux. Ses fonctions et bénéfices, loin d'être uniquement séparatifs, pour garder nos moutons notamment, sont bien multiples et nous tenterons de les aborder dans une nouvelle émission.
Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui est animée chaque mois par Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Chargé de conservation pour le CBN. Alors les haies, aujourd'hui, on va parler de ses fonctions, de ses rôles, oui, de ses usages, de ses compositions idéales, de sa plantation, sa gestion, ses particularités bien sûr pour Urbaflore. Mais normalement, on commence toujours cette émission par une définition.
Oui, la haie, alors je n'ai pas forcément trouvé définition, ça va être ma définition. J'ai imaginé que ça correspondait à une structure végétale d'origine humaine qui est linéaire et qui délimite deux espaces.
Un peu d'histoire et de géographie pour commencer. La haie vive.
Oui, parce qu'il existe des haies non vives qu'on appelle des haies mortes ou des haies sèches. Bon, c'est pas très joli, mais elles sont faites d'un tressage de branchages et de piquets, voilà, simplement c'est avec des restes de végétaux qu'on fabrique ces haies sèches. Elles ont aussi pas mal de fonctionnalités au niveau de la biodiversité notamment.
Il y en a plus quand elles sont vives.
Effectivement, et puis on le verra au fur et à mesure de l'émission. Mais comme tu le disais, donc un peu d'histoire et géographie. La haie vive, elle est constituée d'arbres, d'arbustes qui sont plus ou moins en mélange, qui peuvent être plantés ou spontanés, ce sont des haies qui sont entretenues ou qui poussent librement et qu'on va trouver aussi bien en milieu urbain que rural. La haie, elle a connu son apogée à partir du Moyen-Âge. Elle servait à protéger les terres cultivées de la divagation du bétail. Elle permettait aussi d'avoir du bois pour le chauffage et de consommer des fruits qui poussaient dans cette haie. On peut penser au mur, par exemple, qui pousse... Le mur.
Non, des murs, quoi. Des murs,
les murs qu'on consomme, ouais.
Elles sont un peu malmenées, pourtant, ces haies, maintenant.
Effectivement. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 50, on estime que 70% des haies ont disparu du paysage français. Ça correspond à un peu plus d'un million de kilomètres. Pourquoi est-ce qu'elles ont disparu? Parce qu'elles ont subi du remembrement pour avoir des parcelles plus grandes, donc plus facilement mécanisables. On a eu aussi une complexification des outils agricoles qui étaient plus gros, un peu plus techniques. La haie devenait un obstacle à la circulation des engins. Et puis, elle a été perçue comme une charge supplémentaire de gestion. Il fallait l'entretenir, il fallait plus ou moins la couper. Elle devenait plus ou moins... large, donc une charge. Et puis, il y a aussi des éléments plus liés à l'urbanisation, avec l'élargissement des réseaux routiers, des chemins, et puis divers aménagements urbains qui ont fait que la haie a petit à petit disparu. La haie, elle a été aussi dans des milieux peut-être plus urbains, remplacé par des espèces plus ornementales qu'on allait trouver en jardinerie, peut-être un peu plus esthétiques, un peu plus attrayantes. Et nos belles espèces locales ont petit à petit décliné des haies sauvages. Et puis, pareil, elles ont disparu au profit de murs en parpaing ou de clôtures avec des brise-vues en plastique, brise-vues synthétiques. Voilà, parce que moins d'entretien.
On visualise souvent ce paysage-là de haies et de prairies. Ça s'appelle le bocage.
Exactement, ouais. Le bocage, c'est un ensemble, comme tu disais, d'alternance entre des prairies, des cultures et ce cordon végétal avec donc arbustes ou arbres. Et il s'oppose à ce qu'on appelle l'open field ou champ ouvert. C'est les grands paysages de la Beauce notamment, où on va trouver aucune haie. Et c'est vrai qu'en métropole, Les zones où le bocage est le plus étendu et le mieux conservé, c'est surtout la Normandie, la Bretagne, le Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi des bocages moins vastes qu'on va trouver dans les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus près de chez nous, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Alors la haie, ses fonctions, rôles et usages, tu nous disais déjà, c'est séparatif purement entre deux champs, deux propriétaires, deux types de culture.
Oui, tout à fait, c'est la base de la fonction, on va dire. Donc cette limite, mise en place d'une limite physique, visuelle, d'une propriété ou d'une parcelle, en lien notamment avec l'élevage, hein, bovin. C'est des grandes prairies pâturées qui sont délimitées par ces haies. Elle a une fonction également de brise-vue. On est un peu plus dans des milieux urbains quand on l'utilise de la sorte, avec des espèces au feuillage qui est permanent ou marcescent. On va avoir le charme, le bruit, le buis, le troène ou la viorne. Je cite exprès des espèces qui sont aussi sauvages et locales, qu'on va trouver dans la nature. Je voulais éviter de parler d'espèces plus ornementales et horticoles, il y a tout un choix aussi. Mais voilà, c'était pour donner une ouverture et une chance à ces espèces d'être utilisées dans les haies, aussi bien urbaines que rurales.
Alors, je pense aussi aux ronces, aux églantiers, qui, elles, ont plus des épines, hein. C'est un plus défensif.
Et là, effectivement, on est sur un système plus défensif pour éviter l'entrée des intrus ou d'autres animaux au sein de la parcelle. On va mettre en place les espèces que tu as citées. On a aussi le genévrier ou le houx qui sont très efficaces pour éviter de pénétrer sur les parcelles. Ça remplace le fil de fer barbelé, par exemple.
Avantageusement.
Oui.
Et ça protège du vent ?
Oui, il y a un certain nombre de protections liées à la présence de la haie. Donc, comme tu l'as cité, en tant que brise-vent, ça permet le développement des cultures. Là, je pense à des grands arbres. Quand on est dans le secteur des corbières, où il y a beaucoup de vent, du coup, beaucoup d'éoliennes aussi, et les cultures sont protégées par des grands arbres, par des haies, du coup, arborées. Ça évite aussi un dessèchement rapide, du coup, de l'eau présente à la surface du sol ou pour les cultures, donc ça leur est favorable. Ça assure également un ombrage pour les animaux, surtout en période de sécheresse et de chaleur estivale. Ça permet aussi une stabilisation du sol, ça évite son érosion, surtout en cas de pluie. Et par rapport à l'eau, ça permet à la fois d'épurer l'eau qui va circuler entre les racines de la haie, et de limiter aussi ou de réguler les inondations. Ça sert un peu de tampon, de filtre. Ça retient un peu l'eau, ça freine la progression de l'eau lorsqu'il y a une haie. Et puis, on lui attribue aussi des fonctions de régulation du climat, en tout cas de façon localisée, en apportant une certaine fraîcheur et en maintenant l'eau, comme je l'ai déjà dit. Ça participe aussi à une amélioration de la minéralisation et de l'enrichissement du sol, toute la matière organique, les feuilles, les branches qui retombent au sol, se transforment en matière organique qui est intéressante pour la vie du sol. C'est également une barrière contre les produits phytosanitaires.
Et puis, des fois, ça se mange, ce qui pousse.
Oui, alors bien sûr, on ne va pas manger, nous, les feuilles, mais les animaux, les bovins, notamment, sont assez friands lorsque l'herbe est trop sèche dans le pré, par exemple. En complément d'une alimentation, ça apporte une certaine valeur fourragère. Des espèces comme le noisetier, l'alisier, l'orme ou le frêne ont cette fonction-là. Et puis pour l'homme aussi, c'est super intéressant. J'ai parlé des mûres tout à l'heure. Mm-hmm. Ça peut être des à base de cassis, de petits fruits, de cerisiers, de prunes, etc. Donc ça a aussi cette fonction-là qu'on retrouve au Moyen-Âge, comme je l'ai expliqué en introduction. Mmh. Et puis, un gros enjeu que j'ai mis dans les dernières fonctions de la haie, c'est un intérêt en tant que réservoir et que corridor pour la biodiversité. Ça sert également de gîte et de couvert. Alors, de gîte, ça permet la nidification. Un certain nombre d'animaux vont profiter de la haie pour faire leur petit nid avec leurs branchages, etc. Et puis il y a toute une chaîne alimentaire en fait qui s'organise dans la haie. Ça va de la fleur, ça va de la fleur à la feuille. C'est bénéfique aux pollinisateurs, également aux auxiliaires des cultures. Ça abrite un certain nombre de petits animaux, de petits insectes, d'oiseaux, de chauves-souris, de lapins, d'écureuils, de rongeurs, de hérissons, etc. Qui vont participer à la vie des agro-systèmes ou du jardin. Et puis, deux autres aspects que j'ai trouvé très intéressants, surtout à l'heure du réchauffement climatique, c'est un stockage non négligeable de carbone dans les matières ligneuses, hein, dans le bois des arbres et des arbustes, et également de la production de bois. Voilà pour les rôles et usages des haies. Après, un autre point, c'est aussi une identité et puis une esthétique paysagère qui, par sa présence et sa composition dans le territoire, lui donne une particularité. On saura déterminer un paysage d'un autre qu'on traverse en fonction de l'organisation et de la densité de haies, par exemple.
On se rend de plus en plus compte de l'importance de ces haies vivantes thèmes de cette émission Urbaflore aujourd'hui. On va parler aussi de sa composition idéale, de sa plantation, de sa gestion, de manière à les favoriser, à les développer, pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer aujourd'hui dans cette émission Urbaflore qu'on reprend juste après la musique. Branché sur CFM Radio à l'écoute de cette émission Urbaflore où tous les mois avec Jérôme Garcia qui est chargé de conservation au CBN, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, on vous propose une thématique. Aujourd'hui, c'est au tour des haies vivantes avec, on a fait une partie histoire et géographie, ses fonctions, ses rôles, ses usages juste avant la musique. Là, on parle de sa composition idéale. Ça existe, Jérôme ?
Ah oui, alors forcément, moi je vais faire l'apologie de la marif végétale locale. Pour moi, la haie idéale, de toute façon, c'est celle qui aura poussé spontanément avec des végétaux locaux. C'est celle, finalement, sur laquelle l'homme sera très peu intervenu, sauf pour la laisser pousser. Mmh. Dès le début, c'est la haie qui va se développer parce que, justement, on n'est pas intervenu en bord de fossé, en bord de route, entre deux champs. Voilà. Bon, après, il faut qu'il y ait une haie déjà et des arbres alentour pour qu'une haie s'implante spontanément. Sinon, on peut attendre longtemps. Mmh. Mais on peut aussi l'aider en plantant des espèces adaptées au sol, au climat, à la météo. voilà, la région, il suffit d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, qu'est-ce qui pousse, de récupérer quelques graines sur certains arbustes, hein, l'églantier, la viorne, le cornouiller, l'aubépine, le troène ou le prunelier, se trouve dans les haies spontanées à côté de chez nous. À l'automne, vous récupérez quelques graines, vous les plantez, vous attendez que ça pousse. Et puis quand elles ont une taille suffisante, hein, vous n'attendez pas qu'elles aient 2 mètres, vous les plantez. Et puis pour les arbres, vous allez chercher des glands, des graines d'érable, du frêne ou même quelques cerisiers si vous voulez avoir quelques fruits aussi. Et puis c'est parti, quoi. C'est vraiment des espèces qui sont, voilà, à mon sens, les plus adaptées. Ce qui n'empêche pas, si vous voulez vraiment, si vous avez un coup de cœur sur certaines espèces ornementales ou horticoles, voilà, planter quelques lilas, je vais pas les citer, mais éviter la haie de thuya et de laurière. C'est
évidemment,
juste ça.
Évidemment. D'autant que ces haies sont aussi propices à accueillir les espèces endémiques, hein, autour de la. C'est-à-dire qu'un lilas ne va pas accueillir de la même façon le rouge-gorge extrêmement local. Et...
Oui, le rouge-gorge va pouvoir se poser dessus, mais on va dire qu'il va préférer aller picorer 2-3 vers qui vont, 2-3 chenilles qui vont se développer plutôt sur le prunelier, par exemple. Voilà, y a une espèce d'oiseau qui s'appelle la pie grièche écorcheur qui va aller ramasser des chenilles ou un certain nombre d'insectes, et elle a la particularité d'utiliser les épines de l'aubépine ou d'autres espèces avec des piquants. Elle va les empaler dessus, en fait, pour aller les récupérer à un autre moment. Donc sans ces épines là l'espèce elle est pas trop dans le paysage, elle peut pas faire sa récolte de son butin, quoi, d'insectes.
Et si on veut faire ça très bien, on plante pas ses patates directement au pied de sa haie, on peut laisser une petite bande d'herbe.
Exactement. Que ce soit des pommes de terre dans le potager de Monsieur Tout-le-Monde ou dans la grande culture ou dans la culture, en tout cas, bocagère d'un agriculteur, ça sera intéressant de doubler sa haie ou de mettre une zone un peu tampon avec une bande enherbée, semée avec des espèces locales ou semée éventuellement avec des espèces fourragères, mais en tout cas, qui crée un tampon entre la haie et la culture et qui permettent d'améliorer la biodiversité et le corridor écologique qui va se développer entre la culture et la haie.
Alors, quand planter ?
La plantation, elle est plutôt recommandée en période hivernale, en période de repos végétatif des espèces. On peut planter un arbre ou un arbuste toute l'année à partir du moment où il est en godet ou en pot. À partir du moment où il a une motte avec des racines qui est formée, tu peux planter toute l'année. La contrainte, c'est qu'il va falloir arroser en période de sécheresse. Le mieux pour s'affranchir de ça, c'est quand même de planter à l'automne. Il y a le dicton qui dit « À la Sainte Catherine, à toi Lisa. »
Tout arbre prend racine.
Voilà, le 25 novembre, donc on est plutôt au mois de novembre-décembre pour la plantation qui est idéale. Pendant cette période-là, on peut planter à la fois les plantes en godet et à racines nues. Dans un trou de bon diamètre, de bonne taille, on aura peut-être préalablement praliné les racines, c'est-à-dire c'est un mélange de terre et d'un certain nombre de choses, hein, ça peut être de la bouse ou autre chose, qui font que les racines sont habillées d'une espèce de pralin. Alors c'est pas du praliné, hein, comme en pâtisserie, mais c'est un peu cette couleur-là, et ça permet aux radicelles et aux racines de garder leur humidité et d'avoir toutes leurs chances de se maintenir, d'être viable et de se développer dans la nouvelle terre qui va l'accueillir. Donc, un trou de bonne taille, des plantes pas trop hautes, hein, ça sert à rien de planter des arbres qui font déjà 2-3 mètres, j'en ai déjà parlé, mais un baliveau d'un mètre de hauteur, un jeune arbre d'un mètre de hauteur, c'est parfois suffisant, en prévoyant peut-être une protection contre les herbivores comme les chevreuils. Mais voilà, et puis en alternant, en mettant une distance suffisante pour que le tout puisse pousser sans se gêner. Voilà ce qui est intéressant, je pense à faire. Donc, l'intervention plutôt de plantation plutôt donc hivernale. À partir du mois de mars, c'est déjà un peu tard pour les plantes à racines nues. Elles vont commencer à faire leurs feuilles, elles vont puiser déjà leur nourriture dans le sol avec leurs racines. Et si les racines ne sont pas très développées, ça sera nécessaire de bien arroser, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, après la plantation, arroser la plante. Et l'année qui suit la plantation, pensez en période estivale, de toute façon, à arroser, même si vous avez planté à l'automne.
Et voilà. Comment on l'entretient après ?
Eh bien, pour entretenir ça et vive, quel que soit le gestionnaire ou le jardinier, il faut éviter les gros outils tels que l'épareuse, qui a tendance à déchiqueter les branches un peu épaisses. Ça fonctionne bien sur les jeunes pousses, mais sur les branchages ou même des fois on voit des troncs qui sont scalpés avec l'épareuse. C'est des portes ouvertes à des maladies et à des virus, donc ça fragilise en fait votre haie et les arbres et les arbustes qui y poussent. Donc plutôt utiliser ce qu'on appelle des lamiers, des sécateurs ou même le banal taille-haie. Ça dépend de la surface que vous avez, dans quelle situation vous êtes. C'est sûr qu'un agriculteur qui a plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres de haie, il ne va pas passer avec le taille-haie. Et puis l'intervention, c'est plutôt entre la mi-août et la mi-mars. Donc tout ce qui est période automnale et hivernale, on intervient. Et le reste du temps, ben, on n'intervient pas. Ça permet aussi à tous les animaux que j'ai pu citer, notamment les oiseaux, de pouvoir nidifier sans être coupé en deux, quoi.
On peut avoir plein de conseils, plein d'informations via des associations locales. Je pense notamment à Campagne Vivante 82, grande spécialiste des haies vivantes, hein, qui milite pour...
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'associations qui sont là pour épauler les collectivités ou les agriculteurs qui souhaitent replanter des haies. Donc tu as cité Campagne Vivante dans le Tarn-et-Garonne. Il y a Arbres et Paysages d'Autun en Haute-Garonne. Arbres et Paysages Tarnais, donc dans le Tarn. Ils ont des conventions en général avec donc, les conseils départementaux et les agriculteurs. Et ils font la promotion et utilisent des marques et utilisent des végétaux, notamment de la marque végétale locale que j'ai déjà citée. Et on a aussi des dispositifs financiers qui sont proposés par l'OFB pour soutenir des programmes qui intègrent les haies dans le paysage. Et l'OFB apporte également son soutien à l'AFAC Agroforesterie. Hein, AFAC, c'est l'association française de l'arbre champêtre. Et les associations Campagne Vivante, Arbres et Paysages d'Autun, etc., font partie du réseau AFAC Agroforesterie. Et l'OFB donc, participe au développement d'un label qui s'appelle le Label E. Dans le même registre, il y a aussi un pacte en faveur de la haie qui est assez récent, qui date de fin 2023, qui répond à la stratégie nationale de la biodiversité et qui prévoit en France métropolitaine la plantation de plus de 50 000 km de haies, agricoles ou non, d'ici à 2030.
On parle des haies vivante aujourd'hui dans cette émission Urbaflore, qu'on termine systématiquement par un lien justement avec ce programme Urbaflore. C'est quoi les particularités dans ce cadre ?
Alors déjà, la haie, j'ai dit qu'elle abritait un certain nombre d'espèces, une forte biodiversité. Elle abrite également des espèces protégées, soit directement dans la haie, soit sur les abords proches. Alors, bien sûr, il y a des espèces animales protégées, mais moi, je m'intéresse donc aux végétales. Et on va trouver, par exemple, typiquement aux abords de Toulouse, mais pas que, la rose de France. J'ai l'impression de la citer à toutes les
à
émissions.
Chaque fois.
À chaque fois, voilà. On va trouver également des tulipes. Elles vont trouver refuge dans ces bords de champs, souvent parce que les pratiques agricoles sont un peu moins intensives, par exemple. Des tulipes sauvages, hein, bien sûr, pas forcément des tulipes plantées. On va trouver aussi la fritillaire pintade, et puis une petite espèce autour de Rodez qu'on appelle le censon de Rodez, qui qui va apprécier d'être comme ça un peu au frais dans la haie.
Alors moi, je ne résiste pas à googliser fritière pintade, parce que sérieusement, c'est quoi ce nom? C'est une petite clochette tellement mignonne, rose, avec des petits points blancs.
Oui, elle va fleurir dans pas très longtemps, là, début mars. On va pouvoir la voir bord de cours d'eau, prairie un peu humide. Ça ressemble à une espèce de tulipe qui a la tête en bas et qui a un damier crème et rougeâtre, effectivement. Elle a la particularité, une fois qu'elle est pollinisée, de relever sa tête comme ça, et on a un fruit qui est dressé ensuite. Mmh. Voilà. Et puis, par rapport à Urbaflore, dans les documents d'urbanisme, qu'on appelle communément les plans locaux d'urbanisme, PLU, je suis amené à faire des prescriptions par rapport aux haies, puisque le PLU peut fixer plutôt pour la permettre. Habilité des limites de propriété pour que les animaux puissent traverser sans encombre, hein, le hérisson notamment, pour éviter la mise en place de murettes, béton, etc. Voilà, moi je préconise la plantation plutôt de haies et de haies avec des essences variées, sauvages et locales plutôt. Voilà. Et puis, pour la gestion des bords de route aussi, il y a un partenariat qui existe, notamment avec le conseil départemental, et on est en train de voir aussi à mettre en place quelque chose avec Arbres et paysages d'Autan dans le 31, Arbres et paysages d'Autan qui va soutenir justement la gestion favorable à la haie, la gestion des bords de route favorable aux haies par des pratiques d'entretien plus vertueuses. Voilà. Et puis pour finir, je l'ai déjà cité, mais Urbaflore aussi, c'est valoriser le local et donc la marque végétale locale.
Et pour conclure cette émission, c'est toujours le proverbe.
Alors là, c'est pas un petit proverbe, c'est une petite conclusion. Qui ne paye pas de mine, mais la voici. Alors qu'arrive le printemps, de planter une haie, il est encore temps. Et si l'entretien à venir tu crains, tu verras dans les yeux d'un gamin, la tête dans la haie, que la vue des petits merles dans leur nid, ça n'a pas de prix.
Jérôme Garcia est chargé de conservation au Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. T'anime chaque mois cette émission Urbaflore sur CFM Radio. Aujourd'hui, on parlait des haies vivantes. Le mois prochain,
il y a du choix, mais il n'est pas encore acté.
Eh bien, on verra ça. En tout cas, on peut les réécouter toutes ces émissions et commence à y avoir une sacrée flopée sur le site CFM Radio, cfmradio.fr. Jérôme, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.
Merci à toi, merci à tous. Mmh.